7h30, les titres de votre journal local, présentés par Wallis Glaise, Yorna Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Préavis de grève générale en protocole d'accord à l'étude. Covid-19, comment changer le modèle touristique pour faire face à une forte compétitivité? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis enfin, alors que le colloque sur le cannabis thérapeutique se termine, Karen Matthews-Farah témoigne. Opérée d'un cancer du sein, elle soigne ses douleurs à l'huile de CBD.
Et on débute ce journal avec la grève générale en discussion ce matin.
Les syndicats signataires des préavis de grève générale limitée qui doivent entrer en action le 24 novembre sont en ce moment même justement en négociation. Mais avant le gouvernement, c'est au MEDEF qu'ils avaient rendez-vous hier matin. Je vous propose d'écouter Patrick Galnon.
On a beaucoup avancé, maintenant on n'a pas encore commencé à signer un protocole d'accord, mais il y a des points sur lesquels on est tombé d'accord et on verra par rapport au gouvernement si on est en accord et on pourra signer un protocole.
Donc c'est possible d'éviter la grève si les discussions continuent?
Alors, si les discussions continuent dans ce sens, oui, peut-être, mais maintenant il faut voir avec le gouvernement, on va y aller. Non.
Du côté des patrons, on salue aussi les discussions qui font avancer les choses. On note que les deux parties sont d'accord sur certains points. Manque de consultation du gouvernement sur la réforme de la CPS, difficulté d'application et imprécision de l'administration autour de la loi sur l'obligation vaccinale. Écoutez les précisions d'Olivier Cressman, vice-président du MEDEF.
C'est un point important parce que c'est sur la base d'un diagnostic qu'on va pouvoir penser à reconstruire une forme de dialogue social plus moderne et donc beaucoup plus dans la co-construction que dans une forme de travail d'opposition comme c'est le cas aujourd'hui. L'autre point, c'est bien sûr sur la PSG. Je crois qu'on est dans un consensus sur le fait d'un changement de gouvernance, peut-être pas de la façon assez ferme sur laquelle le gouvernement l'a annoncé. Il faut travailler la copie un peu plus avec le gouvernement sur l'organisation derrière de ce qui doit être mis en place pour être plus efficace dans la réflexion sur la maladie, sur la retraite. Donc il y a, je trouve, de façon assez intéressante, un consensus de mettre les choses à plat, une fois pour toutes, et de vraiment le travailler.
Des avancées donc, mais si les revendications les plus centrales du mouvement ne font pas encore l'objet d'accord, les syndicats demandent par exemple une revalorisation globale du SMIC des salaires de 4%. Écoutez Lucie Tifna du syndicat Hotaï.
Ben c'est possible, la solution elle est là aujourd'hui, c'est plutôt le gouvernement, oui. Ben il faut retirer sa loi sur l'obligation vaccinale, il faut activer la loi de pays sur la promotion et la protection de l'emploi local qui a été votée depuis 2019, mais il reste des arrêtés d'application, ils n'ont pas bossé depuis là, maintenant on n'a plus le même ministre. La PSG, et consulter tout le monde, et en particulier ceux qui payent, voilà, le problème il est là.
Des propos recueillis par Charlie Rennich.
Changer de modèle touristique pour faire face à une forte compétitivité.
Une conférence sur les enjeux de la recomposition du tourisme et des loisirs en période de crise sanitaire s'est tenue hier au lycée hôtelier de Tahiti. Elle a été animée par le sociologue professeur du CNAM Bertrand Bréau en séjour sur le territoire. Interrogé sur les effets de la crise sur le tourisme mondial, il estime qu'elle a la particularité de n'épargner aucune destination et aucune catégorie socio-professionnelle. Un enjeu d'autant plus important que la concurrence entre destinations au niveau international va être davantage accrue. Écoutez justement ces explications.
Là, au bout de 2 ans, les choses se sont un petit peu calmées sur les utopies, entre guillemets, d'un tourisme qui pourrait être totalement renouvelé. Il y a quand même des choses qui restent et qui sont intéressantes et qui amènent les acteurs à réfléchir, à se saisir aussi de cette opportunité, finalement, que représente un rebond, un nouveau départ, pour aussi améliorer, travailler autrement les offres touristiques. Parce que, bien évidemment, une des conséquences aussi de cette crise touristique, c'est que la concurrence entre destinations au niveau international va être encore plus accrue. Et donc, il faut aussi justement réfléchir à quel modèle touristique on veut proposer.
Le CNAM sera en déplacement à Nuku'iwa le mardi 23 novembre à 16h.
Changer colloque sur le cannabis, l'EPIC PACA, ce n'est pas pour tout de suite Wallis.
Pour cette troisième et dernière journée du colloque sur le cannabis en Polynésie, la parole a été donnée à différents producteurs de cannabis thérapeutique orphénois. Ils ont relaté leur expérience, les démarches administratives et les règles auxquelles ils sont soumis avant de pouvoir commercialiser leurs produits. Si l'on prend l'exemple du Portugal, qui a autorisé la culture et la vente de cannabis thérapeutique sur son territoire, les conditions d'obtention d'une licence sont assez contraignantes, il faut le dire. Le modèle dont pourraient s'inspirer les pacaculteurs locaux est celui de la Nouvelle-Zélande. Écoutez les précisions de Philippe Catelin.
Ils ont catégorisé les licences en 3 groupes. Une première licence à destination des grosses sociétés qui veulent produire du gros. Donc là, la licence, elle coûte cher. Une licence intermédiaire au profit des cannabis social clubs, des coopératives communales qui coûteraient un peu moins cher. Et une troisième licence qui coûterait pratiquement rien pour l'autoproduction.
Des propos recueillis par Pascal Bastianaggi.
Le cannabis thérapeutique, planche de salut pour Karen.
Karen Mathews Farah, 46 ans, fin 2019, a été diagnostiquée d'un cancer du sein et a subi une ablation des ganglions et de la tumeur. Mais elle refuse la chimiothérapie et suite à ce refus, dit-elle, elle a été abandonnée par le corps médical. Pour soigner ses douleurs, elle s'est alors tournée vers le cannabis thérapeutique et milite pour la légalisation au Fénois. Je vous propose de l'écouter.
Début 2020, j'ai accepté une partie du protocole qui a été proposé, l'exérèse des ganglions et la tumérectomie. Ce qui s'est passé, c'est que 8 mois plus tard, j'ai souffert des suites justement de l'exérèse des ganglions. Je ne pouvais plus bouger le bras droit. Suite à mon refus de la chimio, j'ai été abandonnée par le corps médical. Donc, mon meilleur ami était Google. Et quelqu'un m'a parlé du cannabis thérapeutique. Et j'ai expérimenté plusieurs thérapies alternatives, mais il n'y a rien qui arrive. Réussi au fait à m'aider à gérer mes douleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, il n'y a que le cannabis.
Jusqu'ici, le cancer de Karen est en rémission. Pour rappel, les chercheurs reconnaissent les vertus antalgiques du CBD, mais ne confirment pas d'effets thérapeutiques sur les maladies elles-mêmes.
Et on termine ce journal avec la page justice. Putaï Tae, à nouveau condamné en appel pour prise illégale d'intérêt et recel d'abus de confiance.
Il a pris une cassation partielle en janvier dernier. Le dossier des subventions municipales qui avait coûté son siège au maire de Papara était revenu en cours d'appel il y a 3 semaines. L'affaire concernait le versement de subventions à l'association Yaora Papara, dont le président d'honneur était Putaï Tae. La cour a rendu son délibéré hier, à nouveau en l'absence du principal intéressé. Elle confirme le jugement du tribunal correctionnel du 7 mai 2019, 18 mois de prison avec sursis, 2 millions de francs d'amende et surtout 2 ans d'inéligibilité. Cette confirmation pourrait à présent coûter à Putaï Tae son siège à l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition.